en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'occasion du 150e anniversaire de l'un des plus grands sociologues français, Émile Durkheim, l'Académie des sciences morales et politiques a tenu un colloque à l'Institut de France le 4 et 5 novembre 2008. Écoutez ici le philosophe Jean Béchler. Après avoir relu l'ouvrage d'Émile Durkheim « De la division du travail social » qu'il tient pour un chef-d'œuvre, il avoue qu'il est devenu durkheimien. Il s'en explique dans son intervention que vous allez écouter maintenant.
Je me souviens d'une conversation avec François Bourricot il y a très très longtemps, où il me confessait qu'il considérait de la division du travail social comme le chef-d'œuvre de Durkheim. Pour ma part, j'ai lu pour la première fois la plume à la main de la division du travail social en 1967-68. J'étais chargé de cours à la Sorbonne, vous y étiez déjà d'ailleurs, et je crois que j'avais mis au programme l'analyse de la thèse de Durkheim. Et j'en avais retiré la conviction que c'était un livre de génie. Qu'en 2008, à l'occasion de ce colloque, et j'en ai tiré la conclusion que c'est non seulement le chef-d'œuvre de Durkheim, et donc je tombe d'accord avec François Bourricot, mais que c'est un chef-d'œuvre au sens absolu du terme, et en prenant le mot en un sens précis, à savoir un ouvrage humain poussé à un point de perfection indépassable et rendu tel par le génie qui s'y déploie et se révèle dans la justesse et la profondeur des vues. Autrement dit, à ma très grande surprise, je dois le confesser, je me sens dorénavant pleinement et entièrement durkheimien, certainement pas durkheimiste parce que je ne suis iste d'aucun côté, mais avec un abandon d'autant plus complet que j'ai constaté, ça m'avait échappé jusque-là, que Durkheim s'avoue aristotélicien. En effet, c'est non seulement la seule référence philosophique dans la division du travail social, mais il y a trois citations, en grec d'ailleurs, d'Aristote en des points très visibles et manifestement volontaires, délibérés du texte. D'abord comme exergue du livre, il se réfère à Aristote. Ensuite, dans la première note de la première page du texte, il y a une citation d'Aristote. Or, on sait que les notes de Durkheim sont rares, mais toujours importantes. Et enfin, dans la conclusion, en forme de couronnement, il revient à Aristote. Et je pense que c'est tout à fait délibéré, et pour des raisons qui apparaîtront peut-être tout à l'heure. Alors, le propre des chefs-d'œuvre est de pouvoir donner lieu à des lectures variées et à des interprétations multiples. Et par conséquent, je ne prétends pas, surtout qu'il y a dans cette salle des durkheimiens bien plus émérites que je ne le serai jamais, je n'ai pas la prétention de donner la lecture de la division du travail social. J'en retiens une, tout à fait arbitraire. Je vais essayer de montrer, je dirais presque à mon propre usage, mais j'essaierai de vous le faire partager, cette conviction, à savoir que tout dans ce livre est miraculeusement juste et le demeure avec un degré de miracle tout aussi élevé aujourd'hui, plus d'un siècle après sa parution. J'essaierai de vous transmettre ce sentiment par deux voies, une voie négative, en essayant de montrer que les réserves et les faiblesses auxquelles on peut être sensible à une première lecture superficielle, c'est-à-dire la mienne, se révèlent à une lecture moins superficielle, il faut parfois un demi-siècle pour y parvenir, se révèlent en fait nulles et non avenues, tout simplement parce que le propos de Durkheim porte ailleurs, et par conséquent, ses faiblesses n'en sont pas, ou du moins sont parfaitement justifiées. Et ensuite, par une voie positive, en reprenant quelques points forts de l'argumentation et en essayant de montrer qu'ils sont parfaitement vrais, au sens fort du terme, plus d'un siècle après. Alors, je laisserai de côté un cinquième point qui est tout à fait essentiel, à savoir ce qu'il dit sur la place du droit dans son argumentation. parce que M. François Théret consacrera à cette question une intervention qui, je n'en doute pas, sera à la fois informée et juste. Alors, commençons par la voie négative. Bon, l'argument central, je le résume en deux mots, tout le monde le connaît. Durkheim trace un parallèle en forme de contraste entre une solidarité qu'il appelle mécanique, résultant de la prégnance de la conscience collective, manifestée par la morale commune et le droit répressif, portée par des individus dotés d'une personnalité collective et assurant la cohésion des sociétés segmentaires, d'un côté, et de l'autre, une solidarité organique résultant de la division du travail social et de la spécialisation fonctionnelle, manifestée par la morale professionnelle et le droit restitutif, porté par des personnalités individuelles et assurant la cohésion des sociétés organiques. Toutes les expressions sont des citations de Durkheim. Et troisièmement, la solidarité mécanique est chronologiquement la première, qui se voit substituer la société organique par une évolution lente, animée par la division du travail social. Bon, voilà les trois thèses ou les trois propositions fondamentales, et toute la thèse aux deux sens du terme, thèse universitaire et thèse défendue, est consacrée à la démonstration de ces trois propositions avec une rigueur implacable et une force de conviction imparable. Alors, une lecture, je dirais, attentive, sympathique, empathique et faisant abstraction du savoir accumulé depuis plus d'un siècle, repère trois difficultés à ce point manifeste que l'on se demande comment Durkheim, avec son génie, a pu les ignorer. Or, je crois qu'on peut montrer qu'il ne les a pas ignorés, mais il les a négligés parce qu'il avait de bonnes raisons de les négliger, que par conséquent, ces objections évidentes n'en sont pas, doivent être mises de côté. J'en ai retenu trois parce que, à l'époque, elle m'avait paru, enfin, à ce point massive, c'est que, disons, j'avais été arrêté par elle. Bon. Commençons par la solidarité et la société organique. Il est clair, enfin, une lecture attentive, si vous voulez, conduit à la conclusion que ces deux concepts proposent des clés théoriques pour aborder de manière efficace l'étude des sociétés modernes, tout particulièrement de ce que l'on appelle, ou ce qu'on a appelé ensuite par une expression que je crois très malheureuse, les États-nations du XIXe siècle. Donc là, ça ne fait pas de difficulté, si je veux dire, à une première lecture. Par contre, la solidarité mécanique et la société segmentaire, si on applique ces deux concepts ou ces deux notions aux sociétés prémodernes, fait difficulté. En effet, ce sont des concepts beaucoup trop vagues et généraux pour être d'une utilité quelconque si l'on s'attache aux différents modes de cohésion et de cohérence sociale. Si vous vous intéressez aux sociétés lignagères ou aux sociétés de caste ou aux cités antiques ou médiévales ou rurales, aux féodalités et à d'autres manières de faire tenir ensemble une société, vous n'avez absolument pas besoin de solidarité mécanique ni de société segmentaire. C'est tellement éloigné des réalités documentées que vous avez le sentiment que c'est inutile. Deuxièmement, on pourrait tout aussi bien plaider la dimension organique de ces sociétés dites segmentaires, parce que toutes, sans aucune exception, organisent les segments dont elles se composent en ensembles qui ne se réduisent pas à la juxtaposition d'éléments. Et par conséquent, il est très possible de renverser l'affirmation que ces sociétés dites segmentaires ont une solidarité mécanique. Elles sont tout aussi organiques et soumises à une solidarité organique, mais simplement, elle est différente, si vous voulez. Alors, si la division du travail social portait sur ces manières pré-modernes de faire tenir ensemble, de cimenter des sociétés, bien, il est clair que la distinction retenue par Durkheim manquerait entièrement son but. C'est tellement évident qu'on se dit que ce n'est pas possible. Enfin, il devait avoir un autre propos que celui-là. Alors, quel est ce propos? Eh bien, il le dit, mais non pas dans la première édition de la thèse, assez curieusement, ça n'est pas parfaitement explicite. Il a dû s'en rendre compte ou quelqu'un a dû le lui signaler, parce que c'est dans la préface à la deuxième édition que l'on trouve, à la page 43 de la réédition, c'est la phrase suivante qui explique tout. « Quant à la question qui a été à l'origine de ce travail, c'est celle des rapports de la personnalité individuelle et de la solidarité sociale. Comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société ? Comment peut-il être à la fois plus personnel et plus solidaire ? Or, si on prend à bras-le-corps cette question et qu'on essaye d'y répondre, c'est-à-dire comment assurer la coopération d'acteurs individuels au sein et au service d'un acteur collectif, eh bien, on constate qu'effectivement, il y a deux solutions polaires possibles à ce problème. L'un que l'on peut appeler la fusion des individus dans le groupe, l'autre leur intégration plus ou moins calculée et délibérée dans le groupe. De fait, la solution fusionnelle l'emporte largement dans les sociétés prémodernes, quelle que soit la morphologie. Ce qu'il fallait établir est ce que Durkheim établit de manière très convaincante. Autrement dit, son problème n'est pas celui de ce que j'appellerais les morphologies prémodernes, mais bien plus celui du principe qui permet d'intégrer des individus dans le groupe, et il n'y a effectivement que deux solutions. Deuxième difficulté, beaucoup plus sérieuse, à mon avis la plus grave et même mortelle, si elle était avérée, ce que l'on pourrait appeler l'évolutionnisme de Durkheim, où c'est le isme qui pose un problème grave. En effet, à une première lecture, Durkheim paraît se ranger naïvement derrière la bannière de l'évolutionnisme, sans se poser les questions les plus évidentes qui ruinent l'isme. En effet, admettons que les deux solidarités ont été repérées, puis définies, et que l'on constate une évolution de l'une à l'autre. Ce sont des données empiriques, si vous voulez. Bien, l'historien poserait immédiatement trois questions qui lui paraissent évidentes, que Durkheim ne pose pas ou ne paraît pas poser. Alors, on peut avancer qu'il avait un tempérament de philosophe, ça vient d'être démontré, c'est évident à le lire. Pour ce qui est d'un tempérament de sociologue, il incarne la sociologie, mais je pense qu'il n'avait pas de tempérament d'historien. Donc le sens de la singularité, de la contingence, de la relativité des choses, il ne l'avait pas d'une manière très aiguë. Enfin, c'est une opinion personnelle. Alors, quelles sont les questions que se poserait l'historien ? D'abord, l'évolution et l'histoire de la solidarité est-elle celle du remplacement intégral de l'une par l'autre, ou bien celle des variations de leurs proportions respectives en fonction des stades et en fonction des sociétés? C'est le seul point de toute la thèse où je pense qu'on peut vraiment prendre Durkheim en défaut, parce qu'il retient les deux solutions, soit le remplacement intégral, soit la variation des proportions. En fait, alors que les deux sont contradictoires, il affirme en deux passages, d'une part, que l'on peut postuler un état protoplasmique des sociétés humaines caractérisé par une indistinction totale de la matière sociale et des individus fondus dans cette matière sociale, d'un côté, et de l'autre, un état des sociétés où la solidarité organique aurait triomphé complètement. Il le dit, ça fait 5 ou 6 lignes, quelque part, en deux endroits différents. J'ai oublié de noter la page. Alors que, par ailleurs, il affirme, et plus longuement, et plus justement, à mon avis, que, bien entendu, il n'est pas question que l'une remplace intégralement l'autre, mais ce sont les variations qui doivent être retenues et constatées. Deuxième difficulté, quelles sont les causes de l'évolution d'une... C'est la question que se poserait immédiatement l'historien. Pourquoi est-on passé de l'une solidarité à l'autre? Alors là, Durkheim répond d'une manière tout à fait directe, mais qui se termine en une dérobade stupéfiante. Voici ce qu'il dit, c'est bien connu, je le cite, page 244, « La division du travail varie en raison directe du volume et de la densité des sociétés, et si elle progresse d'une manière continue au cours du développement social, c'est que les sociétés deviennent régulièrement plus denses et très généralement plus volumineuses. » Alors on se dit, mais pourquoi passe-t-on à des sociétés plus denses, plus volumineuses et plus denses? Alors, page 330, en note, c'est tout à fait typique de Durkheim, dans le suicide également, il y a une note, je ne sais plus à quelle page, qui est tout à fait essentielle et que personne ne lit, évidemment, et qui conduisent à des interprétations bizarres. Voici ce qu'il dit dans cette note. « Nous n'avons pas à rechercher ici... si le fait qui détermine les progrès de la division du travail et de la civilisation, c'est-à-dire l'accroissement de la masse et de la densité sociale, s'applique lui-même mécaniquement s'il est un produit nécessaire de causes efficientes. Nous nous contentons de poser cette loi de la gravitation du monde social sans remonter plus haut. » Autrement dit, la question la plus décisive et la plus difficile, à vrai dire, c'est tout le problème de la néolithisation, est laissée de côté. Bon, je pose une loi et je ne vais pas regarder plus loin, ce qui étonne tout de même l'historien. Troisième question, cette évolution est-elle continue et insensible ou bien est-elle marquée par des crises, des ruptures, des mutations? La question est évidemment essentielle pour l'historien qui s'intéresse à la manière soit contingente, soit nécessaire, soit linéaire, soit scalaire, enfin bref, tout ce qui est, comment dire, le pain quotidien de l'historien dont s'effectue la transition du virtuel à l'actuel. Enfin, mais question qui peut paraître essentielle également au philosophe, qui veut savoir quelle est la part de nécessité et de contingence dans les histoires humaines. Cette question est totalement éliminée. Alors, ces réserves sont-elles fondées? La première l'est, effectivement. Je crois qu'il a... il a eu un moment d'inattention, enfin, comme il est dit dans certains Lehmschaux, personne n'est parfait, même pas Durkheim. Je crois qu'il n'a pas vu la contradiction qu'il y avait à admettre simultanément le remplacement intégral d'une solidarité par l'autre et les variations des proportions. Bon, enfin, bon... ça n'est pas très... Je crois que la deuxième position est exacte. Personne, il le dit d'ailleurs, on peut postuler un état protoplasmique que jusqu'ici, on n'a pas été capable de constater dans la documentation. Ben, 120 ans après, on n'a toujours pas été capable de le constater. Je crois que c'est tout simplement faux. Enfin, l'hypothèse doit être rejetée. Pour ce qui est du triomphe définitif et intégral de la solidarité organique, comme personne ne connaît l'avenir, on peut toujours dire un jour, à l'heure actuelle, il y a toujours de la segmentarité et du mécanisme, si j'ose dire, quelque part dans les sociétés, même les plus modernes. Par contre, les faiblesses 2 et 3 tombent dès que l'on s'avise que le propos de Durkheim est en fait la modernité et non pas une analyse, si vous voulez, en termes de sociologie historique, si vous voulez, de toutes les étapes successives par lesquelles l'humanité a pu passer. Donc son propos porte sur la modernité et un propos qu'il ne peut développer qu'en définissant celle-ci par des traits qui la distinguent de manière radicale de sociétés qui ne sont pas modernes. Dès lors que ces traits ont été définis, eh bien, il n'est effectivement pas utile et encore moins indispensable de chercher plus loin, tout simplement parce que, et la note le dit explicitement, enfin, ne le dit pas explicitement, mais le sous-entend, ce serait une toute autre enquête à laquelle Durkheim pourrait éventuellement se consacrer, mais à laquelle il ne se consacre pas dans cette thèse. Et une fois qu'on s'est rendu compte de cela, effectivement, ce ne sont plus des faiblesses, mais tout simplement un moyen très élégant, très profond et très, très justifié, si vous voulez, de marquer les limites de l'enquête. Toute enquête est toujours limitée et la limite ici est rationnellement justifiée. Il aurait peut-être pu le dire ailleurs que dans une note de la page 330, si vous voulez, pour le rendre plus explicite, mais une fois qu'on a compris, les objections tombent. Troisième et dernière objection, que je crois que si elle s'avérait exacte, serait tout de même sérieuse. Qu'est-ce que la société dont il s'agit d'assurer la solidarité et la cohésion ? Le mot, très curieusement, n'est jamais défini. Alors, si on repère les différentes, les variations sémantiques du mot en fonction du contexte, il apparaît que pour Durkheim, du moins dans la division du travail social, la société est un mot qui s'applique à tout groupe humain et qu'un groupe qu'il ne définit pas, il utilise à peine le mot, est tout acteur collectif, c'est-à-dire une unité d'activité composée d'individus unités d'activité capables d'agir et de connaître collectivement. Or, le seul groupe étudié nommément dans la division du travail et la famille. Enfin, étudier est un grand mot, isolé, repéré, si vous voulez, et à propos duquel, en tant que groupe, si vous voulez, oui, en tant que société, il est dit quelque chose d'explicite, mais ce n'est pas l'objet du livre, manifestement. Il l'utilise, il l'introduit pour illustrer son propos. Ce n'est pas non plus l'entreprise. Le mot n'apparaît guère dans le livre, ce que nous appellerions de nos jours les organisations, ce n'est pas son propos. Quel est le groupe auquel il pense en utilisant le mot de société ? Ça n'est défini nulle part. Je pense que c'est ce que on a appelé, je répète, État-nation. Je déteste cette expression qui est extraordinairement ambiguë. J'ai proposé un néologisme très modeste, enfin politi, c'est-à-dire ce groupe humain qui agit comme acteur collectif sur une scène internationale et qui est caractérisé par la manière dont sont résolus les conflits vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ce groupe-là n'est jamais défini dans la division du travail social en tant que tel. Alors on peut en tirer la conclusion que société n'étant pas définie de manière concrète, on a le sentiment d'ignorer tout simplement de quoi il est question. Enfin, alors l'explication est toujours la même et la justification de la position de Durkheim est facile, pas si facile que ça à introduire. Le propos porte sur la cohésion et la manière de l'assurer, et toutes les conclusions de ce propos doivent être valides pour toute société et pour tout groupe. Là aussi, on pourrait souhaiter qu'il l'eût exprimé de manière parfaitement explicite au lieu de le laisser implicite en utilisant ce mot de société qu'il ne définit à aucun moment. Il faut donc un certain effort, enfin, pour le faire à sa place et à parvenir à la conclusion que ça ne change absolument rien à la validité de l'analyse ni à celle des conclusions. Laissons ces faiblesses apparentes et passons, si vous voulez, à la voie positive et aux points forts. J'en ai retenu quatre, parce que ce sont probablement ceux qui m'intéressent le plus, il doit y en avoir d'autres, qui me paraissent être au cœur de l'argument et qui portent sur le propos central du livre que je crois être, en fait, l'âge moderne, si vous voulez, beaucoup plus que tout ce qui a précédé, et qui demeure d'une très remarquable actualité. Ça m'a frappé à la relecture, tout ce qu'il dit de son temps, et d'une vaut point par point, sans la moindre restriction pour aujourd'hui, même si on peut être tenté de reformuler ses positions. J'en suis parvenu, non pas à la conclusion, mais ceci dit, en le lisant, qu'un parallèle point par point, si vous voulez. Avec Tocqueville, pourrait être très instructif. Il y a peut-être des bibliothèques entières sur ce parallèle que j'ignore complètement. Mais il y a une théorie de la modernité qui, je dirais, me paraît, par le ton, en tout cas, je veux dire, plutôt la saveur, si vous voulez, plus juste peut-être. Mais je ne m'avancerai pas trop dans cette direction que ce que l'on peut lire chez Tocqueville. Alors, la manière dont je m'y prends pour souligner ces points forts a l'inconvénient majeur de détruire l'architecture de l'œuvre et la puissance persuasive de la démonstration. Mais pour vous en persuader, ceux à qui on a encore besoin, il suffit de lire, de relire et de re-relire de la division du travail social. Je vais essayer de montrer que, par des citations successives de Durkheim, qui me paraissent centrales, que chaque proposition pourrait, centrale dans son propos, pourrait servir aujourd'hui de fondement à des développements et à des enquêtes tout à fait fécondes et qui pourraient renouveler peut-être certains développements de la sociologie contemporaine. Premier point, la cohésion par la moralité via la division du travail. J'ai retenu la citation suivante, page 393-394, qui me paraît résumer parfaitement la position durkheimienne. Je le cite, « Le droit et la morale, c'est l'ensemble des liens qui nous rattachent les uns aux autres et à la société, qui font de la masse des individus un agrégat et un, il y a un mot qui manque dans mon édition, cohérent, je suppose que c'est tout cohérent, et moral, peut-on dire, tout ce qui est source de solidarité, tout ce qui force l'homme à compter avec autrui, à régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme, et la moralité est d'autant plus solide que ses liens sont plus nombreux et plus forts. » On peut reprendre l'idée centrale de ce texte, dont je soulignerai la beauté du français. Si les sociologues écrivaient comme ça aujourd'hui en français, nous serions plus heureux peut-être. Trouver une formulation plus actuelle qui donnerait à peu près ceci, en un certain nombre de propositions successives. Premièrement, une société est l'ensemble qui permet à des représentants de l'espèce humaine d'actualiser leur nature virtuelle. Deuxièmement, l'actualisation s'opère par des activités appliquées à résoudre des problèmes de survie et de destination qui sont posés à l'espèce et à ses représentants. Troisièmement, l'application définie des états, dont la spécialisation peut varier de la quasi-indistinction jusqu'aux distinctions les plus raffinées. Quatrièmement, chaque État requiert de ses desservants qu'ils agissent, créent, ouvrent, connaissent, de manière à favoriser les bonnes solutions. Cinquièmement, les acteurs développent, en moyenne et pour la plupart, les qualités indispensables pour remplir à peu près les devoirs de leurs États, car s'ils y échouaient, ils en subiraient des dommages cuisants. Sixièmement, les sanctions sont d'autant plus efficaces que les États sont plus spécialisés, car la spécialisation rend chacun tributaire des performances d'autrui, ce qui est une incitation vive à multiplier et à intensifier les contrôles. Et donc la conclusion, plus une société est complexe, plus elle est simultanément efficace et cohérente. Mais comme elle est aussi exigeante, il est inévitable que certains individus se révèlent incapables de se plier aux règles du jeu et aux contraintes, si bien que des populations d'exclus et d'inadaptés ternissent la cohésion sans la menacer. Autrement dit, l'anomie qu'il retrouvera plus tard, est inscrite dans cette problématique parfaitement cohérente. Je pense que cette manière de présenter les choses est tout à fait dans l'esprit de Durkheim et confirme que c'est plus qu'une intuition, c'est une intuition démontrée, si vous voulez, demeure parfaitement solide. Deuxième point, l'égalité et la justice. Voici un texte qui me paraît parfaitement résumer sa position et qui est dans la conclusion, page 403-404. Ce qui caractérise la morale des sociétés organisées, c'est-à-dire modernes, comparée à celle des sociétés segmentaires, c'est qu'elle a quelque chose de plus humain, partant de plus rationnel. Elle nous demande seulement d'être tendre pour nos semblables, ça c'est très tocquevillien, et d'être juste, de bien remplir notre tâche, de travailler à ce que chacun soit appelé à la fonction qu'il peut le mieux remplir et reçoive le juste prix de ses efforts. Les règles qui la constituent n'ont pas une force contraignante qui étouffe le libre examen, mais parce qu'elles sont davantage faites pour nous et, dans un certain sens, par nous, nous sommes plus libres vis-à-vis d'elles. Texte admirable, que l'on pourrait reformuler d'une manière un peu pédante en termes strictement aristotéliciens, me semble-t-il, qui ne choquerait d'autant moins Durkheim qu'il s'y réfère explicitement. Il parle du métier humain, enfin, anthropinon ergon d'Aristote, que je résumerai en trois propositions. Première proposition, plus une société est complexe, plus elle est placée sous une contrainte triple. Première contrainte, assurer la justice au sens précis d'Aristote, à savoir la contrainte de la loi, qui doit être transcrite et posée en fidélité la plus grande à la loi naturelle non écrite. Et deuxièmement, la contrainte du droit, dans ses quatre ou cinq expressions, le droit contractuel, le droit distributif, punitif, correctif et l'équité. Deuxième contrainte, assurer la liberté des acteurs. Et troisième contrainte, assurer l'identité des acteurs au sens où aucune distinction n'est légitime, qui n'est pas justifiée par son appropriation à la fin poursuivie. Pourquoi ces deux conditions, assurer la liberté et assurer l'identité, mieux, je préfère identité à égalité, qui est extrêmement ambigu et d'un usage dangereux, mais tout simplement parce que ce sont les conditions d'effectuation de la justice, dont on tire la proposition durkheimienne, qui me paraît parfaitement juste. Plus une société est complexe, plus elle se rapproche de cet idéal hors d'atteinte, tout simplement parce que les conséquences deviennent vite insupportables quand on s'en éloigne. Et donc il y a, inscrite dans la structure organique elle-même, une contrainte qui fait que ça ne peut pas aller trop loin dans un sens négatif ou anomique. Troisième point fort, qui, je dois le confesser, m'a beaucoup surpris, parce que ça m'avait totalement échappé, l'individu et la personne. En effet, la conception qui émerge de la division du travail social de l'individu de la personne est beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, du fait de l'insistance de Durkheim sur la société et le social. C'est l'objet de sa thèse, et par conséquent, c'est normal, si vous voulez, qu'il insiste, mais il faut lire presque entre les lignes, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé de citation qui résume parfaitement sa pensée sur l'individu et la personne, mais il suffit de lire attentivement pour la retrouver. Ça donne à peu près ceci, je peux le résumer en trois propositions. D'abord, tout individu dépend de la société, et d'autant plus que celle-ci est plus organique. Deuxièmement, le degré d'organicité est dans la dépendance de la densité et du volume, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui favorise, alors ça c'est nouveau, l'émergence d'idées générales, dont celles d'hommes, nous dirions aujourd'hui d'êtres humains, pour être idéologiquement corrects. Troisièmement, la spécialisation imposée par la division du travail impose à son tour, premièrement, de conférer à l'individu une autonomie d'action d'autant plus grande qu'elle est plus poussée. Deuxièmement, de mobiliser des compétences plus personnelles. Et troisièmement, de dégager une conscience plus individuelle. Alors, toutes ces conclusions sont dans le texte de Durkheim, mais, autant que j'ai pu le constater, ne sont résumées nulle part, enfin, dans une formule synthétique. C'est dispersé, parfois, presque dans une incidente. Là, cette fois-ci, ce n'est pas dans une note en bas de page. Enfin, c'est tout de même dans le texte. Je proposerai une reformulation plus actuelle, peut-être, dans les termes suivants, en deux propositions. Première proposition, plus une société est complexe, plus elle favorise l'individuation. Le mot n'apparaît pas dans le texte de Durkheim, en entendant par individuation le fait de conférer à des individus la responsabilité des activités humaines. Et deuxième proposition, l'individuation bénéficie d'autant mieux aux sociétés complexes que les individus rendus responsables de toutes les activités explicite et intègre mieux les trois dimensions qui définissent tout être humain, le fait qu'ils appartiennent à une même espèce, donc leur niveau spécifique ou humain, le fait que par nécessité ils sont toujours acculturés à une société, au sens durkheimien, donc différentes manières, différents niveaux d'intégration, si vous voulez, donc une dimension culturelle, et enfin le fait que pas deux individus humains ne sont rigoureusement identiques et interchangeables, autrement dit, un niveau idiosyncrasique. Et je le répète, plus ces trois niveaux sont explicités, eh bien plus l'individuation est efficace et mieux elle contribue à la cohésion de l'ensemble. C'est, me semble-t-il, très exactement ce qu'il cherchait à démontrer et qu'il a démontré. Enfin, quatrième et dernier point, qui est assez stupéfiant tout de même et qui n'est pas secondaire parce qu'il l'aborde en cours d'exposé et surtout il revient tout à la fin comme une manière de, là aussi, de conclusion en forme de couronnement. Il s'agit de l'unification de l'Europe et de la planète. On dirait aujourd'hui unification politique. Il n'utilise pas le mot politique. Voici une première citation, page 266. « Pour qu'un peuple se laisse pénétrer par un autre, il faut qu'il ait cessé de s'enfermer dans un patriotisme exclusif et qu'il en ait appris un autre plus compréhensif. Au reste, on peut directement observer ce rapport des faits dans l'exemple le plus frappant de division internationale du travail que nous offre l'histoire. On peut dire, en effet, qu'elle ne s'est jamais vraiment produite qu'en Europe et de notre temps. » Et il y revient, page 401-402. « Déjà, au-dessus des peuples européens, tend à se former, par un mouvement spontané, une société européenne, société là aussi, qui a dès à présent quelques sentiments d'elle-même et un commencement d'organisation. » Il poursuit, un peu plus loin, « Si la formation d'une société humaine unique est à jamais impossible, ce qui toutefois n'est pas démontré, il y a une note en bas de page où il affirme très fortement le sentiment contraire, que non seulement ce n'est pas démontré, mais qu'on peut démontrer la proposition inverse, à savoir que l'humanité va, enfin c'est qu'ancien là cette fois-ci, va vers l'unification ultime. Donc ce qui n'est pas démontré, du moins la formation de sociétés toujours plus vastes nous rapproche indéfiniment du but. » Et il conclut, une phrase magnifique, « La seule puissance qui puisse servir de modérateur à l'égoïsme individuel est celle du groupe. La seule qui puisse servir de modérateur à l'égoïsme du groupe est celle d'un autre groupe qui les embrasse. » Eh bien, ça n'a besoin d'aucune reformulation, ça reste d'une actualité parfaite. Nous pouvons constater, un siècle après, que l'union de l'Europe dans une société intégrant les États-nations est toujours en cours. Alors on pourrait dire, bon, ça n'a pas avancé tellement, mais si, quand on, en un siècle. Alors, comme l'unité de compte de ces phénomènes historiques est le siècle, bon, un siècle, bon, ce n'est rien. Enfin, la Confédération helvétique a mis très exactement 550 ans pour devenir ce qu'elle est devenue. Par contre, ce qu'il n'avait peut-être pas vu, il écrit en 1893, c'est la nature très chaotique de la progression de cette édification d'une société intégrant des sociétés. Quant à l'unification planétaire, qui effectivement en 1893 était une idée directrice tout au plus, enfin, si, bien, je pense qu'elle est à l'ordre du jour, qu'elle est esquissée depuis une bonne trentaine d'années, peut-être une cinquantaine d'années, on peut prédire pour cette étape ultime un parcours au moins aussi chaotique qu'est celui de l'Union européenne. Mais Durkheim avait bien vu. Là aussi, comment dire, des courants fondamentaux, profonds, irrésistibles du monde moderne. Et par conséquent, je le répète, je me proclame durkheimien de manière définitive. Je ne serai jamais durkheimiste et je vous invite tous, sauf ceux qui ne le sont pas déjà, à devenir également durkheimien en lisant ou en relisant de la division du travail social. Monsieur le Président, je vous remercie.
Vous venez d'écouter le philosophe Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques lors du colloque consacré à Émile Durkheim et organisé par cette Académie.